فیلیپین، دو سامر، ان ویاج سینی، الکس دکوت.
Douce, amère les Philippines. Cette douceur mêlée d'amertume saute aux yeux, aux sens, au cœur, dès les premiers instants. Un peu comme ces cuisines asiatiques, aigre-douce, qui vous enjôlent de sucre et vous cinglent de vinaigre. Bien sûr, des sourires naissent sur les visages, au coin des rues, amicaux. Mais que vous y répondiez d'un sourire à votre tour, et très vite, le visage de votre interlocuteur signifiera « quête », désespoir ou commerce. Même les gosses n'y échappent pas, du moins ceux pour qui le seul moyen de survivre est de cirer des chaussures ou de placer leur grande sœur, enfin grande, 14 ou 15 ans peut-être, dans le lit d'un touriste amateur de sensations exotiques et point regardant ni sur les pourboires ni sur la morale. Lorsque, pour la première fois, j'arrive dans une quelconque capitale du monde, je commence par m'y promener longtemps, sans repère précis, sans carte, sans plan, en essayant toutefois de revenir à mon point de départ, à pied, après un long cheminement hasardeux, sans l'aide et sans les indications de quiconque. Parfois, lorsque je pressens un danger ou que la structure de la ville me laisse désemparé, j'opère cette prise de possession symbolique de la ville en deux ou trois sorties successives, augmentant à chaque fois le rayon de mon cercle. À Manille, je me sens à la fois très loin de l'Occident, visage aux yeux bridés, grouillement de foule ou de groupe, misère souriante, odeur, lumière, et très proche de cet Occident aussi, à cause des noms de rues aux consonances espagnoles, Arquiza, Flores, Général Luna, Padre Faura, Aragon. Ou alors, consonance anglo-saxonne, United Nations, Taft Avenue, Ferguson, Harrison Boulevard. À cause des enseignes aussi, lumineuses, rythmées, vantant des marques dont les trois quarts au moins viennent tout droit des États-Unis. À cause de la circulation enfin, longues américaines, Jeep transformées en taxi en plein vent, piou-piou sonore, couplées sur le clignotant des voitures. Impossible de trouver, dans toute cette ville de Manille, un seul endroit insonore. Le bruit est partout. Et lorsque, par chance, vous n'êtes pas à deux enjambées de la rue, c'est la musique banale et stéréotypée qui s'empare de votre univers. Pour autant que vous réussissiez à la faire taire, cette musique, le ronronnement continu de l'air conditionné vous montera aux oreilles, lentement, insidieusement, jusqu'à vous faire préférer la touffeur silencieuse, 35 ou 40 degrés et près de 90% d'humidité, à la fraîcheur ronronnante. Mais coupez l'air conditionné et réapparaîtra alors, au loin, le bourdon, la vibration que la turbine d'air vous cachait. Vibration de circulation, de mouvement, de vie. Rien à faire. Manille, métropole du tiers-monde ou ébauche d'une capitale futuriste? Difficile à dire. Imaginez que vous installiez un ordinateur dernier modèle sur un char à bancs tiré par deux bœufs. L'ordinateur surveillé par un technocrate à col blanc, les bœufs guidés par un paysan nu-pied. Manille peut s'enorgueillir sans doute de la plus belle brochette d'hôtels et de bâtiments de grand luxe, ultramoderne. La plus belle brochette qu'il m'ait été donné de voir pratiquement au monde. On se croirait à New York. N'étaient ces bordures de trottoirs démesurément hautes, 40 cm peut-être, difficiles à franchir, limitant chacune des rues. Pourquoi ces tranchées de béton? Parce que les hôtels sont du 21e siècle, mais que les égouts sont du Moyen-Âge, et qu'à la première grosse averse, comme hier après-midi, les rues deviennent des torrents, les voitures sont immobilisées, toute circulation se fige, les belles dames retroussent leurs robes de soie et portent leurs chaussures à bout de bras. Seuls, les 40 cm de trottoir endiguent le flot et épargnent les maisons. Contraste philippin. Arrivant à Manille, je possédais dans mon petit carnet de bord l'adresse d'un jeune économiste français, François Julien, travaillant ici pour la Banque Asiatique de Développement, à la réalisation de projets d'intérêt général, routes, rizières, aménagements urbains. Je connaissais son nom, pas son visage. Je suis allé chez lui, hier, en fin d'après-midi, dès que les grandes eaux se furent retirées des rues et que les taxis eurent repris leur valse hachée et klaxonnante. Il habite, François Julien, à Passaï, autre cité du Grand Manille, pas très loin du rivage, dont d'ailleurs quelques hectares viennent d'être gagnés sur la mer pour la plus grande gloire et le plus grand profit de la première dame du pays, la First Lady, Imelda Marcos. La femme du président Marcos. Imelda Marcos, dont les journaux relatent, jour après jour, les déplacements, les inaugurations, les humeurs. Imelda Marcos, pour qui son mari a créé, de toutes pièces, un poste à sa mesure, gouverneur du Grand Manille. Visite donc à François Julien. Il habite une maison de bois cachée sous les arbres, les carreaux des fenêtres sont encore à l'ancienne manière, nacre de coquillages, affinés, aplatis, diffusant une lumière mate dans une pièce haute où gesticulent les pales d'un immense ventilateur plafonnier. Julien avait peu de temps pour me voir hier, nous nous retrouverons, mais s'il n'avait pu me donner qu'un seul conseil, c'eût été d'aller, à pied, à cheval ou en voiture, le plus vite possible, jusque dans les montagnes du nord, au pays des coupeurs de tête. La révolte y couve, mais les tribus y sont accueillantes. Il me donnera des adresses et des contacts. Je ne regretterai pas cette épopée, me dit-il. Sans doute, suivrai-je son conseil dès que j'aurai pu organiser mon séjour aux Philippines. Julien est parti, en hâte, vers son rendez-vous, et m'a laissé avec un de ses amis français lui aussi. Il devait retrouver, peu de temps après, deux autres Européens, jeunes comme lui, avec un but, les bordels de Quiapo, dont il me vante les mérites et les spécialités. Un bus blanc qui fonce dans la nuit, la petite receveuse à jupe courte qui tente tant bien que mal à coups répétés sur la carrosserie de faire arrêter le chauffeur lorsque des passagers veulent descendre. Passé Quiapo, grand détour dû à des travaux, le bus nous laisse dans un chantier. Traverser des tranchées sur des planches, puis une rue, des odeurs d'urine. Je me laisse conduire. Mes trois cicérones sont des habitués. Nous sommes à la recherche du Ali Bang Bang, un beer garden, un jardin de bière, lieu où ne sont admis que les hommes et où de jeunes femmes peu vêtues servent, se trémoussent et dansent, paraît-il. Temps d'ingurgiter quelques bières, de consommer une ou deux tasses de riz avec des baguettes, nous décidons d'aller en face, enfin pas loin. Il y a un autre bar avec des danseuses nues, paraît-il. C'est en tout cas l'un d'entre nous qui l'affirme. Ça m'étonnerait, dit l'autre, depuis la loi martiale, c'est interdit. D'accord, oui, interdit, mais enfin, juste un petit carré. En fait, rien de tout ça, une jeune femme à peu près identique aux précédentes, maillot noir. Client apathique, table immonde, nous repartons. Le chef de la bande improvisée nous emmène en taxi dans le quartier d'Ermita. Une boîte, le Saint-Moritz Club, au premier étage. Bar central, à l'intérieur duquel, sur une estrade haute d'1,50 m, sous des spots rouges, deux ou trois jeunes femmes, un peu plus âgées tout de même qu'à Quiapo, dansent, tenues identiques. Sur un tableau noir, une inscription. Suisse fondue, 45 pesos, 15 francs. 15 francs suisses. Pas plus cher finalement que sur le quai des Bergues. Le boui-boui est tenu par un Suisse et un Allemand. Une affaire d'or. Les filles vont de table en table, entraîneuses, se laissent peloter complaisamment. S'asseoir près de moi, une femme vêtue de sobre un peu lourde, genre Sophia Loren. Elle s'accroche. Tendresse, goût de caoutchouc d'une haleine trop chargée d'alcool. Finit par me dire qu'elle me suit à l'hôtel. Minuit et demi, dans 30 minutes le couvre-feu. Le temps de passer la porte, je salue tout le monde, je tourne le coin de la rue et je me mets à courir. Bye bye madone, je l'ai échappé belle.
Kita panun sa kalanggaman. pagpahulay nabati ko ang awit sa mga kalanggaman kana ko nawala ang kalaay ug sada ko kung kalipay hangtod usab ako milaylay.
Retour à ma chambre, fourbu. Lecture d'un peu d'histoire extraordinaire d'Edgar Poe, et puis sur la table de nuit, publicité. Massage 24h sur 24, appelé le 2187. Bonne idée pour un jour prochain. À demain.
Sayo sa kabuntagong maui akong nakita manun sa kalanggaman nananagambahan nagaawit ug nagudiyaga sila sa kalangitan puno sa kadasig malipayon na sudunon panahon sa akong pagpahulay nabati ko ang awit sa mga kalanggaman kanako nawala ang kalaay ug sadak